Le néoplatonisme. Les cyniques, les stoïciens et les épicuriens se référaient, nous l'avons vu, aux présocratiques comme Héraclite et Démocrite, ainsi qu'à Socrate. Mais le courant d'idées le plus remarquable dans l'Antiquité tardive fut surtout inspiré par la théorie de Platon. C'est pourquoi nous l'appelons le néoplatonisme. Le néoplatonicien le plus important fut Plotin, environ 205-270, qui étudia la philosophie à Alexandrie et vint par la suite s'établir à Rome. Il est intéressant de noter qu'il venait d'Alexandrie, cette ville qui pendant des siècles avait été le point de rencontre entre la philosophie grecque et la mystique orientale. Dans ses bagages, Plotin avait une théorie du salut qui allait devenir un sérieux concurrent pour le christianisme à ses débuts. Mais le néoplatonisme allait aussi exercer une forte influence sur la théologie chrétienne. Tu te souviens, Sophie, de la théorie des idées chez Platon? Il distinguait le monde des idées et le monde des sens, et séparait clairement l'âme de l'homme et son corps. Ainsi, il y a une dualité dans l'homme. Le corps se compose de terre et de poussière, comme toute chose ici-bas dans le monde des sens, tandis que l'âme est immortelle. Cette idée était largement répandue chez beaucoup de Grecs bien avant Platon. Plotin connaissait aussi des conceptions similaires qui avaient cours en Asie. Le monde est, selon Plotin, tendu entre deux pôles. D'un côté, il y a la lumière divine, ce qu'il appelle l'un, ou parfois Dieu. De l'autre côté règne l'obscurité totale, là où la lumière de l'un ne peut pénétrer. Toute la démarche de Plotin est de nous faire prendre conscience que cette obscurité n'a pas d'existence. Elle est une absence de lumière, certes, mais elle n'est pas. La seule chose qui existe, c'est Dieu, ou l'un. Mais telle une source de lumière qui petit à petit se perd dans le noir, il y a une certaine limite à la portée du rayonnement divin. Selon Plotin, l'âme reçoit les rayons de l'un, tandis que la matière est cette obscurité qui n'a pas de réelle existence. Même les formes dans la nature reçoivent toutes un pâle reflet de l'un. Imagine, chère Sophie, un feu de camp dans la nuit, des étincelles crépitent de tous côtés. Dans un large périmètre autour du feu, la nuit est comme illuminée, et à des kilomètres de là, on apercevra la faible lumière de ce feu lointain. Si nous nous éloignons davantage, nous ne verrons plus qu'un minuscule point lumineux, tel une faible lanterne dans la nuit. Et si nous nous éloignons encore davantage, la lumière ne nous parviendra plus. À un endroit, la lumière se perdra dans le noir. Et quand il fait tout noir, nous ne pouvons rien voir. Il n'y a alors ni ombre, ni silhouette. Représente-toi maintenant la réalité comme ce feu de camp. Ce qui brûle, c'est Dieu. Et l'obscurité à l'extérieur est la matière dont sont faits les hommes et les animaux. Tout près de Dieu se trouvent les idées éternelles qui sont la matrice de tout ce qui est créé. L'âme de l'homme est avant toute chose une étincelle du feu. Cependant, toute la nature reçoit un peu du rayonnement divin. Il suffit de regarder tous les êtres vivants, même une rose ou une jacinthe des bois dégage quelque chose de la lumière divine. Le plus loin du Dieu vivant, on trouve la terre, l'eau et la pierre. Je dis que tout ce qui est participe du mystère divin. Nous voyons que quelque chose brille au fond d'un tournesol ou d'une pensée sauvage. Un papillon qui volette de fleur en fleur ou un poisson rouge qui nage dans son bocal nous font pressentir ce mystère insondable. Mais c'est grâce à notre âme que nous nous approchons le plus près de Dieu. Là seulement, nous faisons un avec le grand mystère de la vie. Oui, il peut même nous arriver, à de rares occasions, de ressentir que nous sommes ce mystère divin lui-même. Les images de Plotin rappellent l'allégorie de la caverne chez Platon. Plus on s'approche de l'entrée de la grotte, plus on se rapproche de l'origine de tout ce qui est. Mais à la différence de Platon, qui sépare la réalité en deux parties distinctes, La pensée de Plotin est sous le signe d'une expérience de la totalité. Tout est un, car tout est Dieu. Même les ombres tout au fond de la caverne de Platon reçoivent un pâle reflet de l'un. Au cours de sa vie, Plotin eut quelquefois la révélation que son âme fusionnait avec Dieu. C'est ce que nous appelons une expérience mystique. Plotin n'est pas le seul à avoir eu ce genre de révélation. Il y a eu de tout temps et dans toutes les cultures des personnes qui en ont parlé. Le récit de leur expérience peut légèrement varier, mais on retrouve des traits essentiels dans toutes ces descriptions. Examinons quelques-uns de ces traits. La mystique. Une expérience mystique signifie que l'on ressent une unité avec Dieu ou l'âme du monde. Certaines religions insistent sur le fossé qui existe entre Dieu et la création, mais le mystique fait justement l'expérience qu'un tel fossé n'existe pas. La personne fait corps avec Dieu, s'est fondue en lui. Derrière tout cela, il y a l'idée que ce que nous appelons communément « moi » n'est pas notre véritable « moi ». Dans des moments de fulgurance, nous faisons l'expérience d'appartenir à un « moi » beaucoup plus vaste. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'âme du monde, la nature universelle ou encore la totalité du monde. Au moment de la révélation, le mystique se perd lui-même. Il disparaît ou se fond en Dieu, telle une goutte d'eau qui se perdrait elle-même en se mêlant à l'océan. Un mystique indien s'exprima en ces termes. « Quand j'étais, Dieu n'était pas. Quand Dieu est, je ne suis plus. » Le mystique chrétien Angelus Silesius, 1624-1677, dit quant à lui que chaque goutte devient l'océan en se fondant en lui, de même que l'âme s'élève et devient Dieu. Tu penses peut-être que ce ne doit pas être très agréable de se perdre soi-même. Je comprends tes réticences. Seulement voilà, ce que tu perds a infiniment moins de valeur que ce que tu gagnes. Tu te perds toi-même dans ta forme présente. Mais tu prends aussi conscience que tu es quelque chose d'infiniment plus grand. Tu es l'univers. Oui, c'est toi, Sophie, qui es l'âme du monde. C'est toi qui es Dieu. Même si tu dois renoncer à toi-même en tant que Sophie Amundsen, console-toi en te disant que tu finiras bien un jour ou l'autre par perdre ce « moi » de tous les jours. Ton vrai « moi » que tu ne peux réussir à connaître qu'en renonçant à toi-même, est selon les mystiques semblable à un feu étrange qui brûle de toute éternité. Mais une telle expérience mystique n'arrive pas toujours d'elle-même. Le mystique doit souvent suivre le chemin de la purification et de l'illumination à la rencontre de Dieu. Ce chemin consiste en un mode de vie rudimentaire et en diverses pratiques méditatives. Et un jour survient où le mystique atteint son but et peut enfin s'écrier « Je suis Dieu » ou « Je suis toi ». Nous trouvons des orientations mystiques au sein de toutes les grandes religions dans le monde. Et il est frappant de constater à quel point les descriptions que le mystique fait de son expérience se rejoignent par-delà les différences culturelles. Ce n'est que lorsque le mystique tente de donner une interprétation religieuse ou philosophique de son expérience que l'arrière-plan culturel réapparaît. Dans la mystique occidentale, influencée par les religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, le mystique souligne qu'il fait l'expérience d'une rencontre avec un Dieu personnel. Même si Dieu est présent dans la nature et dans l'âme de l'homme, il plane aussi bien au-dessus du monde. Dans la mystique orientale, c'est-à-dire au sein de l'hindouisme, du bouddhisme et du taoïsme, il est plus courant de souligner que le mystique fait l'expérience d'une fusion totale avec Dieu, ou l'âme du monde. « Je suis l'âme du monde, peut s'écrier le mystique, ou encore « Je suis Dieu ». Car Dieu n'est pas aussi dans le monde, il n'est précisément en aucun autre lieu que là. En Inde tout particulièrement, il y a eu bien avant l'époque de Platon de forts courants mystiques. Swami Vivekananda, qui fit connaître la pensée hindoue en Occident, dit un jour « De même que certaines religions dans le monde nomment athée l'homme qui ne croit pas à un Dieu existant en dehors de sa personne, nous disons quant à nous qu'est athée l'homme qui ne croit pas en lui-même. De ne pas croire à la splendeur de sa propre âme, voilà ce que nous nommons athéisme. » Une expérience mystique peut se révéler d'une grande importance pour l'éthique. Un ancien président indien, Radhakrishnan, déclara un jour « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, parce que tu es ton prochain. C'est une illusion qui te fait croire que ton prochain est autre chose que toi-même. » Il existe aussi des personnes qui, sans appartenir à une quelconque religion, peuvent témoigner d'une expérience mystique. Ils ont soudain ressenti quelque chose qu'ils ont appelé la conscience cosmique ou sentiment astral. Ils se sont sentis arrachés du temps et ont fait l'expérience du monde sous l'angle de l'éternité. Sophie se redressa sur son lit. Il fallait qu'elle s'assure qu'elle avait toujours un corps. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa lecture sur Plotin et les mystiques, elle avait commencé à se sentir flotter dans la chambre, sortir par la fenêtre ouverte et planer au-dessus de la ville. De là-haut, elle avait aperçu tous les gens sur la grande place et avait continué à flotter au-dessus de la terre où elle vivait, au-delà de la mer du Nord et de l'Europe, en survolant le Sahara, puis les vastes savanes africaines. La terre tout entière était devenue comme une seule personne vivante, et c'était comme si cette personne était Sophie elle-même. « Le monde, c'est moi », pensa-t-elle. Tout cet immense univers qu'elle avait si souvent ressenti comme incommensurable et angoissant, c'était son propre moi. Maintenant, l'univers restait majestueux et imposant, mais elle-même était à son tour devenue infiniment grande. Cette impression étrange eut au fait de se dissiper, mais Sophie savait que jamais elle ne l'oublierait. Quelque chose en elle s'était projeté hors d'elle et mêlé à l'ensemble de la création, telle une seule goutte de teinture qui pouvait donner de la couleur à toute une carafe d'eau. Quand ses impressions se dissipèrent, elle eut la sensation de se réveiller avec une migraine après avoir fait un beau rêve. Légèrement déçue, elle constata qu'elle avait un corps qui essayait péniblement de se redresser dans le lit. Elle avait mal au dos d'être restée sur le ventre à lire. Mais l'expérience qu'elle venait de vivre resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Elle parvint enfin à mettre un pied par terre. Elle perfora les feuilles et les archiva dans son classeur avec les autres leçons. Puis, elle alla se promener dans le jardin. Les oiseaux pépiaient comme si le monde venait d'être créé. Derrière les vieux clapiers à lapins, le vert tendre des bouleaux se détachait avec une telle netteté qu'on avait l'impression que le Créateur n'avait pas fini de mélanger la couleur. Pouvait-elle réellement croire que tout était un moi divin? Qu'elle avait en elle une âme qui était une étincelle du feu? S'il en était ainsi, alors elle était vraiment un être divin.